Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Miami Vice, série emblématique des années 80 créée par Anthony Yerkovitch, mettant en scène un duo de flics, Don Johnson dans le rôle de Sonny et Philip Michael Thomas dans le rôle de Rico, a su encapsuler une époque, une ambiance et marquer dans l'inconscient collectif Miami égale cul, drogue, armes et cocktails. Mais surtout une série qui aura dynamisé le genre de série de flics un peu ronflant en quelque chose de plus dynamique, plus profond et plus poisseux malgré le soleil et les boîtes de nuit. Forcément, avec un succès pareil, un projet de film était dans la boîte. Il aurait fallu attendre un peu plus de 20 ans pour que son producteur Michael Mann ait l'occasion rêvée. Un budget colossal gratifié de la part d'Universal suite au succès de Ali et Collateral dans le début des années 2000. Malheureusement, plusieurs problèmes durant la production vont faire gonfler le budget déjà énorme du film et décaler sa sortie pour finir sur un crash critique et financier pour Universal. Mais Miami Vice méritait-il de se faire autant vilipender par le public? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce podcast. Je suis Luc Lelunec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Miami Vice de Michael Mann mérite la shitlist, je suis accompagné du grand, du magnifique, du splendide Marvin Montes, auteur, podcasteur, c'est Flash Forward. Bonsoir Marc.
J'ai rien à ajouter.
Montrez-moi cette montre, montrez-moi votre oui, croquette side. Allez-y.
J'ai une montre de Sony Croquette dans Miami Vice. Voilà.
Marvin Croquette est avec nous, c'est incroyable.
Exactement. C'est incroyable.
Et son acolyte, Sony Berania, j'ai envie de dire. Karim Berania, du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim.
Karim
Salut
Stubbs.
Tout le monde. Karim Stubbs, ça me fait beaucoup trop rire. En vrai, ça me va, je veux dire, ça me fait beaucoup trop rire.
Je vais vous poser la question, parce que j'ai sauté la question Olivier Dahan la semaine dernière, donc. Parce que c'était quand même un réalisateur dont on s'en battait
rien à dire. Loin
dans les couilles. Pose-la maintenant, on va y répondre.
Votre film préféré d'Olivier Dahan?
On lui a déjà
la bombe. Non, je déconne. je vais vous poser la question, donc votre relation avec le cinéma de Michael Mann, qui est avec une filmo quand même qui est assez conséquente, hein, on parle de quasiment une douzaine de films, plus si on compte les téléfilms quoi. Marvin, de ton côté, un peu ta relation avec Michael?
Comme tout bon cinéphile, j'aime beaucoup Michael Mann, vous connaissez Manhunter, Le Solitaire, je sais pas, c'est difficile de pas l'aimer. Moi je pense pas qu'il ait une film aussi conséquente, hein, parce que 12 films en tant d'années de carrière, finalement... Tu vois, en plus, les années 80, juste, du coup, vu qu'il est tellement occupé sur Miami Vice, il fait pas grand-chose. Donc
il a d'autres séries télé, en fait, il fait plein de séries.
Mais je veux dire, au cinéma, il y a assez peu de faux pas, quoi, tu vois. Je peux t'en citer un sûr, à mon avis, qui s'appelle Public Enemies, tu vois.
Ah oui, La Forteresse oubliée, peut-être qu'il a foiré aussi dans les
années. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est compliqué de mettre ça à son crédit, quoi. Donc,
La Forteresse Noire ou La Forteresse oubliée, je sais plus.
La Forteresse Noire. Mais c'est pas vraiment, bah, pour le coup, tu vois, bon, on n'a pas vu le film tel qu'on aurait dû le voir probablement, ouais. Donc bon, voilà, je dirais pas ça. Mais Michael Mann, c'est compliqué de
chier dessus.
Bah, c'est difficile quand même, enfin, tu vois. Alors, c'est pas le cinéaste le plus subtil du monde, on en reparlera évidemment, mais bon, voilà, c'est sûr. mais bon, c'est compliqué de pas, entre Hit, Ali, Collateral, ce que tu veux, c'est compliqué de pas y trouver au moins une fois de temps en temps son compte, quoi, je trouve. Donc, jusqu'à Black Hat, Hacker, c'est très bien aussi. Donc, franchement, grosse filmo, on peut rien dire. Hein.
Ferrari, qui est son dernier film, et qui va embrayer, là, normalement, sur la production de Hit 2, notamment que par rapport à
son roman. Il y a le bouquin, déjà, qui est sorti, donc faut voir, ouais.
Il y a une espèce de structure comme Le Parrain 2, en fait, entre le passé et le futur.
Apparemment, c'est beaucoup plus un flashback que
le présent, mais j'imagine aussi. Je pense que, bon, c'est quand même plus intéressant de parler des personnages de Hit, même si de faire un Hit 2, c'est quand même, je sais pas, c'était un projet quand même un peu la base, quand même un peu casse-gueule, quoi. Après, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas
J'en ai entendu du bien.
On va prendre ça. Karim, de ton côté, la carrière de Michael Mann, qu'est-ce que t'en penses? Quels sont les films qui t'ont marqué, d'ailleurs, du réalisateur?
Réal cool. Moi, j'ai découvert Michael Mann réellement sur Collateral, que j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a fait ensuite retourner un peu en arrière directement sur Le Sixième Sens, Manhunter. Après, j'ai refait pas mal de trucs. J'avais fait Mia Vias, que j'aimais bien. Public Enemy, ça, c'était pas bien. Je crois que quand j'ai refait la filmo. Et Ali, ouais, Ali, c'était bien. Ouais.
Ali avec ouais. Will Smith, ouais.
C'est
ouais.
ça, c'était bien. Bah, en vrai, Michael Mann, c'est un réalisateur que j'aime bien parce que je le trouve.
C'est super, Ali.
Cali et relativement élégant. Pas dans ce qu'il veut raconter, pas forcément dans ce qu'il montre, mais dans sa manière de faire, je trouve c'est un réalisateur qui est très très élégant, c'est toujours très agréable à regarder, malgré ce qu'il veut dire, tu vois. Donc bien. C'est, ouais, il a un peu tampon quali, Michael Mann, tu vois, c'est même quand c'est pas ouf, il y a un côté quality permanent, tu vois.
On n'a pas cité le film qui est peut-être en fait le meilleur, c'est peut-être Révélation, quoi.
Révélation,
c'est incroyable, quoi. Par contre, on est désolé les Manzouz, hein, enfin voilà. Hein. On sait que tous les trois jours, vous tweetez dessus, mais Public Enemy, c'est naze. Hein.
J'ai pas vu cette réhabilitation de Public Enemy.
Si, parce que vu à Manzouz, pour lui, il n'y a pas de mauvais man.
Allez,
donc,
Bah déjà, il y a problème. Enemy, déjà, moi, je pense qu'il y a problème. Déjà,
il y a problème. tu vois, le film dont on va parler ce soir, pour eux, ça reste c'est Citizen Kane, quand même. Hein. Tu vois, on verra, mais pas déconner. Mais voilà. Et Public Enemy, non, c'est pas...
Ouais, je pense qu'ils veulent parler de la Citizen Kane, de la caméra numérique, peut-être, mais je pense qu'il l'a déjà fait, en fait, avec Collateral. Donc,
Il allait moins loin, Collateral, mais...
Oui, bien sûr, il n'y a pas de plan de boiteau, il n'y a pas de plan de taré.
Peut-être que, du coup, c'était plus mesuré, c'était peut-être pas mal aussi.
Bon, en tout cas, moi, je trouve, de toute façon, sa carrière, elle est incroyable, de bout en bout. Après, il a eu des grosses périodes de creux, effectivement, en termes de cinéma, mais la période, je dirais, entre Heat et Miami Vice, où il enchaîne des tubes, en fait. Donc, il y a Heat et Révélation, il y a Ali... Et Collateral et Miami Vice, je veux dire, enfin, rien que ça.
Voilà, je veux dire, qui a ce run-là, bon, pas grand monde. Hein.
Non, clairement. Après, je pense que, et je sais que c'est beaucoup reproché, hein, Michael Mann, c'est considéré un peu comme, je veux dire, les films redondants et un peu chiants, de la part peut-être du grand public, du fait que ce soit très contemplatif, et que ça joue beaucoup sur les personnages, sur leur façon de penser, le fait qu'ils soient un peu en décalage, des fois. Enfin, je sais que c'est un peu rebutant.
Il est un peu considéré, malgré lui, comme un espèce d'emblème du cinéma mascu, tu sais, à cause de Heat et ce genre de choses, quoi. Ce qui est pas très, très pertinent quand on regarde, mais c'est un peu ça qu'il... Genre, je lis, en tout cas, souvent ce discours.
Bah, des voilà. Personnages qui sont un peu, oui, enfin, entre guillemets, droite libérale, dans le sens où c'est des gens qui veulent, qui sont pas en accord avec leur société, enfin la société actuelle, et qu'ils essayent de s'en sortir en brisant les règles, entre guillemets.
Puis le fait que ce soit un cinéma quasi exclusivement d'hommes, tu vois, c'est ça.
Oui, aussi, oui. Ah oui. En même temps, le mec à quel âge? Il a 80 ans, donc bon, c'est... Ouais, après, il a la même génération que Ridley Scott, donc bon, c'est compliqué.
C'est sûr qu'il y a un delta, idéologique, mais bon, c'est pas pareil. Et puis c'est pas si évident que ça, en fait.
Non, c'est vrai.
Ouais.
On en parlera bien entendu pendant Miami Vice, évidemment. Donc on va lancer la bande-annonce. J'espère que vous avez ressorti tous vos t-shirts Linkin Park, parce que ça va y aller là. You understand the meaning of the word foreboding? As in badness is happening right now. J'ai The Direct qui dit je prends de la testostérone en intraveineuse là. Effectivement, la bande annonce est vendue rêve. La bande annonce c'est des bateaux, des
guns.
Mais
la bande annonce,
Colin
ce
Farrell.
N'est pas le film.
Ah non, mais du tout. Non, mais
peut-être que les gens se sont dit trop bien et en fait ils ont été dépités, je pense.
Bah, c'était ma réaction quand j'avais 14 ans. Là, je vous ai raconté,
mais
je l'ai téléchargé en DVX.
Il y a
2-3
ans quoi.
Et il y a d'autres. Et du coup, quand je l'avais vu la première fois, effectivement, j'étais elle est où l'action? Je l'ai à la fin, mais bon,
pas la bagarre,
deux heures de film.
Pas la bagarre, putain.
De spleen, quoi.
Les gonzesses, c'est pas la bagarre.
Les gonzesses. Miami Vice, sorti en août 2006, produit par Universal avec un budget de 135 millions de dollars, photo de Diane Beebe, réalisation par Michael Mann sur un scénario qu'il coécrit avec Anthony Yerkovitch, basé sur la série télé. Miami Vice s'est diffusé sur NBC entre 84 et 89, que Michael Mann et Anthony Yerkovitch produisaient à l'époque. La musique est gérée par John Murphy avec une BO qui propose du Moby, Mogwai, Linkin Park, et les scènes de cul sont sponsorisées par Chris Cornell et son groupe Audioslave. D'ailleurs, il faut le noter, une scène de cul, Audioslave. Voilà, absolument. C'est vraiment sur le monteur.
Alors, on est passé de une scène de Coyote Audioslave à une scène de cul Audioslave, entre Collateral et Miami Vice. Effectivement.
Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux ans, là, mais il a dit...
Il aime juste énormément Audioslave, je pense.
Ah, mais il l'en met partout, putain, mais même sur Tokyo Vice, le premier épisode qu'il a réalisé, Audioslave. Ok, d'accord.
Normal.
Pas de problème. Pas de problème. Suite au meurtre de deux agents fédéraux et la famille d'un informateur Sonny Crockett, interprété par Colin Farrell et son coéquipier Ricardo Tubbs, sous les traits de Jamie Foxx, enquête sur la fuite d'informations qui a causé le massacre. Et quel massacre ? Alors, je pense pas que ce soit un massacre, moi, personnellement. Okay. Et Karim, qu'est-ce qu'on a pensé du film ?
Ok, meilleure transition ever.
J'ai rattrapé,
bam, bam, et là, retournement de situation, schlack.
Tu m'as attrapé quand même. Non, en fait, le film vient. Miami Vice, c'est un film que c'est la deuxième fois que je le voyais aujourd'hui. Je l'avais vu il y a 4-5 ans. Je m'étais mépris sur ce que j'attendais du film la première fois que je l'avais vu. Moi, j'avais un souvenir très, 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 très lointain de Miami Vice. Je pense que j'ai plus un souvenir des parodies de Miami Vice que de Miami Vice en soi. Je voyais ça comme quelque chose de vraiment beaucoup plus bourrin, machin, tout niable. Bon, la série est sûrement comme ça. Et donc, quand le film sort et que je le chope en sûrement DivX, moi aussi, je m'attends à un Bad Boys-like, tu vois. Et c'est pas vraiment le cas. Après, premier visionnage, je pouvais pas trop déranger parce que factuellement, je trouvais le film quand même assez cool, comme je le disais, élégant, mais bien dans l'ambiance, suite, ça allait. Je le revois aujourd'hui et ça marche encore mieux, en fait, vu que j'ai plus ces attentes de merde, en fait, et que je sais dans quel projet je me mets. Le film, en fait, il devient grave cool. L'idée de faire vraiment un film d'infiltré, réellement, en fait, hein, avec une ossature autour d'une histoire d'amour qui c'est couillu, je m'attendais quand même pas à ça, tu vois, tu sais, objectivement, tu vois, même si je sais que Sonny, il est assez chaud de la meuf, je m'attendais pas quand même à ce qu'on te fasse une romance dissimulée en mode narcotrafiquant infiltré, mais en vrai, ça va. Ça marche pas mal parce que Colin Farrell sur le coup fait bien l'animal en folie, je veux dire, avec ces genres je ne peux pas contrôler mon corps, mes hormones et cette envie de te poser.
Quand je me lève pendant la transaction, je l'emmène en bateau.
Absolument. tout ça à cause, grâce à un regard, je veux dire, c'est
son regard de bovin là, quand il regarde la voiture en train de barrer là.
Non, mais est-ce que c'est pas ce qu'on voudrait tous être finalement?
Mais en fait c'est ça.
La question se pose réellement.
Moi j'ai pris mon costume, hein. Voilà, bientôt la chemisette, hein, cet été, moi les gars. Chemisette moustache. Hein.
Ouais, je comprends, mais surtout, je veux dire, c'est un homme d'action, tu vois, un homme qui parle pas, un homme qui y va, tu vois. Ouais, donc le film, globalement, il est vachement bien. Excusez-moi, ça m'a perdu là, le coup. J'ai repensé à Marvin et Luc et l'attachage de ceinture.
On peut même plus s'attacher sa ceinture.
Mais de toute façon, on peut plus se toucher la ceinture. Genre.
Non, c'est. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans le film, en fait. Il y a un côté qui j'aime beaucoup, c'est que le film est très peu explicatif. Alors, c'est à la fois un défaut, mais par exemple, sur le personnage, il y a zéro explication. T'as pas de lore, ainsi de suite. Et tu connais rien des personnages.
Tu vois les deux personnages qui sont déjà. En fait, il y a rien à expliquer. Ils sont déjà potes comme pas possible. Tu vois, ils sont cul comme chez
mais
tu.
En fait, voilà. Ça me dérange pas, ça me dérange un peu plus quand même parce qu'ils ont une espèce d'army man, enfin ils ont une espèce de gang avec eux, un crew, tu vois, tu sais. Oui. Malheureusement, ce sont vraiment des personnages fonction parce que je ne peux citer le nom de aucun personnellement, ce qui est assez triste parce qu'ils sont ma foi.
Mais je pense qu'ils sont même pas caractérisés en fait.
Ouais. Donc ça c'est
juste un groupe.
Et le truc qui est con, c'est que alors la dynamique aussi, elle est un peu foirée dans le film dans le sens que Colin Farrell, Sonny, il a son film, il a son histoire et il a son acolyte, Jamie Foxx, Tubbs. Qui est vraiment son acolyte, et en fait, qui, je trouve, malheureusement, et alors j'ai rien contre ce que fait Jamie Foxx, c'est vachement bien, en vrai, il le fait bien, mais on le voit pas assez, c'est juste un mec, en fait, qui sait conduire des choses, et qui est pratique, en fait, pour faire des scènes de duo. Il a quoi? Un arc qui, alors, ma foi, important, en fait, quoi, je veux dire, mais c'est... Il y a juste une scène qui est très très cool, hein, la scène du sauvetage de sa nana qui fait partie de l'équipe, où la scène est assez cool, pas mal de tension, ainsi de suite. Mais ouais, un peu dommage, parce que je m'attendais à un truc un peu plus duo, et je trouve que le film il est assez scindé, et qu'il y a beaucoup plus de Rico que de Tubbs. Mais après, le film est vraiment cool, hein, les deux heures elles passent, alors j'ai pas vu la version longue, je sais pas si elle apporte énormément de choses, factuellement.
Non. D'ailleurs, je vais répondre à une question, il y a un gros problème de scénario, c'est pas qui est la taupe du FBI. Ouais, et c'est pareil, en fait, il y a plein de trucs laissés en plan.
Mais on s'en fout, en fait.
C'est ça, en fait, clairement, c'est parce que t'es pas dans un film d'enquête, pas un film d'infiltré pour l'enquête, ainsi de suite, t'es pour une histoire entre des gens.
L'ambiance.
Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, l'ambiance. ça reprend les codes. Il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup, hein, toutes les scènes de nuit. Bon, il y en a beaucoup, elles sont très bien réalisées. La scène d'intro, en fait, dans le club. Moi, par exemple, une intro comme ça où tu comprends R, sauf que, bah, en fait, t'as deux flics et tu comprends relativement qui est avec qui, ainsi de suite. Ouais, je trouve ça super efficace. Donc, c'est un bon film. Je comprends pas pourquoi elle a été boudée. Si, je comprends pourquoi elle a été boudée, parce qu'il y avait plein de connards comme moi qui voulaient Bad Boys 2. Voilà, ou Bad Boys 3 dans l'idée, tu vois. Mais en vrai, non. Pour moi, je trouve ça ultra cool. Et j'ai appris que plus tard, en fait, que Michael Mann, il était producteur de Miami Vice. Alors
vous, la série.
La série. Et alors, je sais pas, Marvin le saura sûrement, il me corrigera, mais je sais pas, je trouve ça ultra cool. J'imaginais une série qui était burnée, tu vois, tu sais, un peu testostéronée, pas concon, mais burnée, tu vois, avec beaucoup de trucs qui explosent. Et de voir que l'adaptation au cinéma se fait pas à contre-pied, tu vois, tu sais, mais genre apporte un autre pan, tu vois, tu sais, on va dire pas forcément psychologique, hein, c'est pas X by Shot le truc non plus, mais. Qui se veut plus voilà, sur les sentiments, tu vois, c'est sur les ressentis, l'histoire de confiance et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu complétude du projet et je trouve ça cool.
Oui, c'est un complémentaire, c'est clairement complémentaire.
Ouais, ouais. Bah, c'est une vraie continuité, quoi.
Ouais, ouais. Oui, mais enfin, je veux dire, il oui, y a quand même. Voilà, c'est. L'un peut vivre sans l'autre aussi, quoi. Clairement. Ouais. Ok, c'était cool pour Karim. Ouais, donc en fait, la série, tu t'en parleras un petit peu, Marvin, hein, je te laisserai. Ouais. Bon voilà, qui a été quand même un énorme succès. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois durant l'émission. Pour le casting, en fait, alors il y a une explication aussi. Je te dirais pourquoi Jimmy Fox, on le voit pas beaucoup. Il y a aussi une explication un peu logique là-dessus. En fait, déjà pour changer de Jamie Foxx, donc a été choisi par Michael Mann suite au succès de Collateral. Déjà, Jamie Foxx, lui, il a été déjà là, il venait d'avoir son Oscar pour le film Ray. Déjà, donc il était quand même là, on commençait à vraiment devenir le top du game en termes d'acteur. Il était dans la A-list. Et Don Johnson avait suggéré justement à Michael Mann de prendre peut-être avec Jamie Foxx. Du coup, il avait pris de demander Colin Farrell en fait pour jouer Croquette. Alors, les deux sont partis en stage pour devenir des flics infiltrés. Il y a tout le making of en fait explique le fait qu'ils ont travaillé avec des flics sous couverture et qui ont eu plusieurs témoignages. Ils ont fait même des entraînements en fait.
Ça, ils le faisaient déjà pour la série en fait.
Ouais, ouais, mais ça, c'est en fait, c'est Michael Mann tout craché. C'est que lui, il aime l'hyper-réalisme. Faut vraiment que tout soit comme dans la vraie vie entre guillemets. D'où son en fait sa fâcheuse tendance des fois aussi à tourner un peu en mode vas-y on s'en fout on va là tu vois vraiment avec des gens qui sont pas forcément au courant qu'il y a un film et que ce soit aussi il engage des criminels des fois pour faire des figurants ou pour sécuriser le plateau de tournage quoi donc ce qui a cette fâcheuse tendance à faire ça au fait vraiment pour être dans l'ambiance quoi pour vraiment être dans le côté je cherche vraiment la réalité quoi limite il veut faire en fait son film une sorte de docu-fiction aussi quelque part tu vois. Mais en fait Jamie Foxx pourquoi il s'est tu vois qu'il y a une espèce de pendant un moment il est pas là en fait c'est parce qu'en fait pendant le tournage et là on revient en fait sur la méthode de Michael Mann en fait c'est que sur le plateau de tournage c'était en République dominicaine il y a eu un échange de tirs en fait juste à côté du tournage Jamie Foxx a fait ouais non ouais les gars je suis pas payé pour ces conneries donc il s'est barré sans prévenir la prod il est retourné aux États-Unis. Donc en fait, du coup, il voulait pas du tout se ressortir après des États-Unis. Il a dit non, je vous démerdez, j'en ai rien à foutre. Pour le coup, en fait, alors ils ont dû modifier en fait le film. Donc c'est-à-dire que le scénario a été tourné un petit peu. Enfin, le film, au moins la moitié du film, je pense, a été tourné un petit peu en scénario, en disant un scénario d'urgence un petit peu. Et pour le coup, ils ont dû situer. Normalement, la fin devait se situer en Uruguay. Ils ont situé la fin à Miami. En fait, ils sont retournés à Miami pour retourner la fin pour que Jamie Foxx soit présent dans la dernière partie du film. D'où avec ça aussi sa compagne qui se fait exploser à un moment donné. Enfin, il y a tout cette situation là. Et pour le coup aussi, bon, il y a eu d'autres problèmes de tournage. Colin Farrell, à un moment donné, ils ont dû faire une petite pause de quelques jours parce qu'il était il a fait une overdose parce que on est sur la période aussi de Colin Farrell Colin Farrell qui s'envoie des bouteilles de whisky de la cocaïne
ça se voit
un peu fatigué c'est son regard n'est pas forcément
légèrement
quelque chose de très naturel
un peu boudiné dans le t-shirt quoi genre.
Ouais, voilà, un petit peu ouais. Donc non il y a vraiment cette voilà on a aussi Colin Farrell qui était un petit peu sous emprise qui fait une overdose donc ils ont dû faire une pause sur le tournage et ça ils ont s'entraîné plein d'emmerdes il y a aussi eu un ouragan qui avait l'ouragan Katrina qui avait détruit les décors dû retourner dire bon on va tourner dans les endroits on va essayer de se démerder autrement donc ça décale en fait ça a décalé la production ça a forcément induit des coûts et en fait on ne sait pas en fait la production déclare qu'ils ont fait $135 millions pour produire le film mais les rumeurs notamment de chez Variety, disent en gros que le film a coûté 200 millions. Et là, on parle de 200 millions en 2005-2006. C'est-à-dire un film de 200 millions, c'est le budget moyen pour un film Marvel, mais dans les années 2010. Donc c'est vraiment, là, pour le coup, un film qui coûte vraiment une blinde. Et l'Universal, en fait, quand ils ont le projet final, Michael Mann, voilà, il avait quand même il avait la confiance totale du studio. Il livre, et ça peut-être on en parlera avec Marvin, mais il livre quand même un film qui est plus dans un film de mood, je dirais, que d'un film réel d'action, ce que tu peux attendre, entre guillemets, d'un truc qui est marketé Miami Vice. Ce qui fait qu'en fait, la production et le service marketing d'Universal se retrouve avec le film et s'est dit, comment on va le vendre ? On est dans la merde. Donc, le trailer que vous avez vu, c'est vraiment le... Ils se sont dit, bon, on va condenser tout ce qu'il y a, entre guillemets, d'action dans une putain de bande-annonce d'une minute dix avec du Linkin Park pour dire, en fait, en gros, voilà ce que vous allez avoir, du Bad Boys, du Michael Mann qui se transforme un peu en Michael Bay. Voilà. démerdez-vous, vous avez ça en salle. Bon, ce qui ne va pas du tout passer, parce que déjà, la presse n'était pas prête, je pense, pour ce genre de film, à l'époque, au moins du moins. Pas aussi ouvert. Et t'as aussi les spectateurs qui ont vu le film qui ont dit tout bonnement c'est 2h25 de spleen, j'en ai rien à foutre, clairement ils ont passé le mot et voilà, ça s'est planté. Alors, je sais pas combien ça a fait d'entrées en France, je pense pas que ça a dépassé le million, mais en tout cas ça a pas fait un grand chiffre parce que le film en gros a coûté énormément à l'Universal, qui en gros a un peu grillé aussi Michael Mann derrière pour faire des films, qui s'est rattrapé avec Public Enemy, mais bon, ça a pris 4-5 ans je crois pour qu'il se
remette à faire un film. C'est la fin de ces grandes années.
Clairement c'est la fin du mojo Michael Mann, quoi. Donc voilà pour ces petits problèmes de production, voilà, qui est absolument sympa. Petit fun fact d'ailleurs, ils ont eu pendant une scène de voiture là, de course, quand ils ont tendance, parce que c'est pareil, c'est des voitures lâchées en 200 km/h par les acteurs, conduit par les acteurs. C'est pareil, ils ont failli se manger une vitre parce qu'avec, il y avait vu des tempêtes. Il y avait une tempête du coup, parce qu'on le voit à un moment donné, il arrive à choper une scène qui est quand même plutôt pas mal où t'as Colin Farrell qui avance avec des guns, prêt à aller se bousiller. Il y a un orage derrière, je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est pareil, c'est une super scène. Et en fait, c'est qu'il y a vraiment un ouragan, enfin une tempête. Et en fait, il y a eu une vitre qui a failli les dégommer pendant le tournage où ils étaient en bagnole, quoi. Donc voilà, plusieurs problèmes comme ça, vraiment le film maudit, quoi, totalement. Et Marvin, je vais te laisser du coup, Miami Vice, le film, la série, vas-y.
Bah en fait, t'as raison, c'est un film invendable. Malgré le fait que Michael Mann soit extrêmement bankable à ce moment-là, parce qu'il est quand même sur le run un peu sans faute, quoi, depuis vite, on va dire. Et je pense que s'il est vraiment invendable, c'est parce que justement il y a une espèce de giga mésentente autour de Miami Vice, la série, autour de l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui et de ce qu'elle était vraiment, parce que c'est pas du tout le truc qu'on a encore dans l'imaginaire collectif de série super kitschouille emblématique des années 80. Oui, ça l'est, mais c'est pas que ça en fait. Et en fait, t'es obligé de revenir justement aux deux personnes qui sont encore impliquées dans le film, donc il y a Yarkovitch d'un côté, qui est le fameux type à l'origine de l'idée du concept qui s'appelait MTV Cops, hein. C'était vraiment ça à l'origine, qu'il fallait faire un cop show pendant les années MTV, donc c'est comme ça qu'on le vend, hein. C'est pas l'idée de Michael Mann, il arrive après, mais bon, en tant que producteur exécutif, forcément il y a beaucoup de lui dans la série, hein. Il est producteur exécutif et on peut dire que toute l'esthétique de Miami Vice, qui est même pas une esthétique qui fait partie des années 80, puisqu'en fait, elle est quasiment initiatrice de toute la pop culture des années 80, en tout cas de ce pan-là de la pop culture des années 80. Quoi. C'est littéralement Miami Vice. C'est des choses que Michael Mann a créées, en fait. La manière de filmer Miami, de l'embellir comme ça, ce qu'il a fait avec les costumes, les véhicules, tu vois, c'est lui qui demandait à sa chef costumière d'aller dans tous les festivals de mode du monde pour faire en sorte que ses personnages portent que des fringues de haute couture européens. Tu vois, ou qui ne roule que dans des voitures européennes. En fait, cette espèce de contraste-là, cette espèce de look un peu bizarre, tu vois, au moment de la sortie que ces personnages avaient.
Intemporel, ouais.
C'est de son fait. En fait, cette imagerie-là, elle émane directement de lui. Tu vois. Mais Miami Vice, comme on a dit, c'est pas que ça. C'est aussi une série qui est finalement assez vénère, en fait. Qui bénéficie déjà de l'hyperréalisme de Michael Mann, c'est-à-dire. Oui, la plupart des épisodes, c'est même quand ça parle de trafic d'enfants, quand ça parle de trucs de fusillades super violentes, c'est des vraies affaires, en fait, de la police de Miami. Ils avaient des consultants en permanence. Enfin,
ah oui, non, mais
tout, normal. Ils ont des personnages qui tirent quasiment à vue, qui flinguent le monde entier. Tu vois, je veux dire, c'est pas du tout une série. Tu vois, il y a la traduction française de Flic à Miami, tout ouais. ça. C'est pas ça.
Ça fait un peu genre un petit voyage. Hey
voilà, ouais, c'est, ouais. voilà, Miami Vice, c'est pas ça du tout. Il y a quand même quelque chose de très, très, très sombre là-dedans. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier plan du dernier épisode. C'est pas la série qui, en dehors de son esthétique, respire le plus l'espoir, en fait. Hein, pas du tout. Et donc, si je disais ça, c'est parce qu'à mon avis, il y a une espèce de mésentente autour de ce que les gens ont vu et de ce que les gens s'imaginaient de la série. Et s'imaginent peut-être encore aujourd'hui de la série. Ce qui fait que ça peut paraître un petit peu paradoxal, alors que pour moi, c'est une vraie continuité. D'ailleurs, qu'on retrouve Yerkovitch et Michael Mann. Et pour moi, Miami Vice, en fait, c'est Michael Mann après 15-20 ans d'expérimentation. Tu vois, entre Miami Vice et la sortie du film, est un peu dépouillé de tout, de toutes les embûches de prod, en fait, de tout ce que la chaîne voulait quand il devait sortir. Tu vois, c'est-à-dire le côté MTV Cops, tout ça, on dégage, et il reste plus que ce qui infuse un peu de Michael Mann dans Miami Vice, parce que finalement, le film, dans ce qu'il raconte, dans ce côté un peu tragique, ce truc de split de 2h20, en fait, c'est Miami Vice sans son esthétique de l'époque, quoi. Mais c'est à peu de choses près, ça raconte plus ou moins la même chose. D'ailleurs, en fait, pour tout dire, le film, c'est, je crois, c'est 3-4 épisodes de la première saison qui sont imbriqués ensemble. C'est à peu près ça, le scénar du premier. Je pense que c'est pour ça qu'Yerkovitch est crédité, c'est parce qu'en fait, lui, il écrivait déjà la série. Et oui. Je ne sais pas s'il a vraiment réécrit le film, mais je crois que c'est 3-4 épisodes de la saison 1 qui sont plus ou moins imbriqués ensemble, et ça donne l'intrigue du film, quoi, à peu près. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est un truc cohérent. Après, est-ce que c'est vraiment... bien, est-ce que c'est un des sommets de Michael Mann? Je pense pas. Tu vois, je pense que cinématographiquement, il a fait beaucoup mieux avant et même après. Après, c'est un film qui est super cohérent et qui est le bon film au bon moment dans son parcours, quoi. Tu vois, je veux dire, il sort de Collateral, il a commencé à expérimenter le numérique. Bon, bah là, c'est effectivement, c'est la roue libre. Voilà, il y a sa fameuse caméra, la Thomson Viper, là. Caméra, il en a fait la promo toute sa vie, là. Bon, bah voilà, je veux dire, il l'utilise en permanence dans Miami Vice. Tu vois bien,
vous avez vu comment ça filme la nuit, il n'y a pas besoin de lumière, pas besoin de se casser le cul, ça.
C'est vrai que tu vois ça aujourd'hui, tu dis, bon, on dirait que c'est filmé. Tu vois, tu peux avoir tendance à dire, parce qu'en fait, ça fait tellement partie maintenant de l'industrie de manière complètement banale, t'as tendance à te dire que le numérique de l'époque, tu vois, tel qu'il était utilisé, c'était un espèce d'effet caméscope et tout, mais faut pas oublier que c'était vraiment révolutionnaire, hein, une manière de montrer la nuit comme ça, de manière aussi détaillée, aussi brute. C'est un truc qu'avant Collateral, finalement, on connaissait pas beaucoup, quoi. Non. Et donc, c'est vrai qu'il en a mis partout dans Miami Vice. Voilà, la scène de la poursuite en bagnole dès le début, enfin, c'était littéralement j'ai pris ma caméra numérique, je me suis mis dans la voiture et c'est parti, quoi. Et
youpi,
voilà, donc. Et je trouve que le film, il a plein de... En fait, il a plein de trucs bizarres d'anti-film bankable, d'anti-blockbuster qui le rendent flamboyant. Moi, j'adore son rythme, par exemple. Tu vois, le fait de toujours couper sans montrer. D'ailleurs, c'est un espèce de film sans description. Tu vois, comme le type qui se fait rouler dessus dans la première scène. Au moment où tu vois une espèce de traînée de sang qui commence à apparaître, paf, tu coupes. Et voilà. Et il fait ça tout le temps. C'est un espèce de film d'action sans description qui est quand même un truc assez particulier, quoi. Quand même, hein, je veux dire, bon, c'est vrai que oui, si tu t'attends à des explosions, des fusillades, en fait, t'en as vraiment pas. Et même la scène finale, elle te donnera pas ce que t'as envie de voir, en fait.
Non, non, tu vois juste des gens qui sont en train d'en chier de s'envoyer des balles, et voilà, quoi. Il n'y a pas de mort.
C'est pas du tout le principe, quoi. Mais moi, en tout cas, je trouve que ce que le film fait, il le fait incroyablement bien, quoi. En tout cas, je pense que c'est le sommet de son expérimentation, on va dire, de son utilisation du numérique. Et puis, il y a cette espèce de sens du tragique, c'est pareil, c'est Hit x 1000, quoi. Il y avait déjà ce truc-là dans Hit, justement, surtout au travers de Robert De Niro. Là, je veux dire, Colin Farrell, c'est le stade supérieur.
Qui regarde l'horizon lointain.
Il arrive à rendre un plan d'un type en chemise blanche, le mulet au vent dans un hors-bord lyrique.
Profond.
Quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, tu vois. Voilà. En plus, il y a Gong Li, donc, bon, qui s'appelle Isabella dans le film, mais bref.
C'est un débat qu'on a eu avant l'émission.
Non, on n'aura pas ce débat. Mais en tout cas, elle est au centre, en plus, elle est totalement au centre du film, quoi. Et moi, c'est pour ça que je trouve que ils ont dû s'arranger un petit peu des indisponibilités de Jamie Foxx, mais finalement, ils ont quand même des parcours qui se répondent assez bien. Tu vois, je trouve vraiment que la séquence finale, au moment où, on va dire, l'espèce de romance tragique de Sony s'arrête, le fait qu'il rejoigne Jamie Foxx à l'hôpital, au moment où lui récupère sa femme, est quand même un truc qui marche assez bien dans leur parcours parallèle. Et puis, en fait, Moi, j'aime énormément cette idée aussi que personne n'a de backstory, personne n'a de lore et on s'en fout.
Ah, c'est cool. Hein.
Ah ouais, oui, effectivement. C'est, en plus, ça marche. C'est ça qui est fou.
T'as les sbires de Croquette et Tubbs qui sont à moitié des espèces de mannequins de supermarché. Quoi, qui
avec,
sont là,
Justin, avec Justin Theroux, il y a un acteur de The Warrior dedans.
Et je sais pas si vous remarquez, c'est qu'en fait, c'est tellement évident, la relation, elle est tellement fluide et évidente entre Jamie Foxx et Colin Farrell qu'ils s'adressent quasiment pas la parole du film, en fait. Ils doivent avoir...
Non, il y a 5 répliques.
Il y a 5 ou 6 répliques ensemble, mais ça, c'est incroyablement fort.
Et encore, ils disent pas « je t'aime » ou « t'es mon pote ». Non, c'est
non,
parle technique.
C'est vraiment, tu sais, ils se parlent, mais en plus, le film appuie vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'il lui dit « t'es où ?» Je rentre, paf, t'es... Et c'est des choses comme ça. Et en fait, ils s'adressent jamais la parole. Il y a rien pour construire leur relation, et pourtant, elle fonctionne de manière complètement naturelle et extrêmement fluide, quoi. Donc, je trouve que c'est quand même très très fort ce qu'il arrive à faire avec très peu de répliques, très peu d'action, très peu de descriptions, juste un espèce de truc lyrique qui coupe à des moments particuliers et qui prend son temps pour tout, quoi. Qui prend son temps pour tout, pour montrer une, je sais pas moi, 35 minutes de scènes d'amour au milieu du film, tu vois, qui sont complètement déconnectées de l'histoire en cours. Et voilà, de prendre son temps de faire les choses, de les filmer comme il a envie.
Les gens, les flics qui se baladent, enfin quand tu vois les deux qui se baladent dans une espèce de favela dans la République dominicaine. Voilà, ça dure 5 minutes, 5 plombes, ils se parlent. Voilà.
Ils se parlent. À un moment, ils vont attendre un mec qui viendra jamais. Putain, ça fait 4 heures, on rentre. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ok, tu vois. Et moi ça me va. Moi, ça me va. Donnez-moi ça toute la journée et ça va aller, quoi. Donc voilà, je pense que dans son intention lyrique et technologique, il est très très réussi. Après, est-ce que c'est son meilleur film? Non, je pense pas. Je pense qu'en termes de rythme ou de sommet ou même de chorégraphie de l'action, il a vraiment fait beaucoup mieux, mais c'était pas le propos. Donc dans le projet, je pense qu'il pouvait difficilement faire mieux. Donc voilà, je pense que c'est bien, tu vois. Miami Vice, c'est un truc qui est quand même réhabilité avec le temps pour le coup.
Non,
alors oui, on a tendance à l'ériger en chef-d'œuvre, je pense pas non plus. Hein. Je pense que c'est un truc un peu trop personnel. C'est un peu trop le Vanity Project de Michael Mann pour le coup.
Oui, parce que c'est un truc qui a fait 20 ans qu'il l'avait dans ses cartons, Miami Vice.
Voilà, et puis c'est vraiment le moment où il se dit je reprends ce projet-là de cette série que j'ai quand même plus ou moins chapeauté, en tout cas pendant les deux premières saisons. Après, il est un peu moins là, mais. Et je la revisite un petit peu comme j'aurais voulu qu'elle soit à l'origine. Donc c'est un vrai truc perso qui est partagé, en fait. Qui est partagé à des millions de gens via Universal. Ouais, bon, bah, t'as la chance de le faire, fais-le, quoi. Donc voilà, moi je le trouve réussi pour ça, ouais.
Écoutez, on va pouvoir se poser la question fatidique. Est-ce que ce film mérite la shitlist? Karim, est-ce que Miami Vice mérite la shitlist?
Pas du tout. Non, pas du tout, c'est un très bon film, en plus c'est un très bon film qui devient encore mieux quand t'apprends, parce que j'avais fait un peu les devoirs, mais pas autant, quand t'apprends tout ce qui s'est passé entre les galères, entre le concept de projet Miami Vice, tu vois.
Ouais
non, c'est vachement bien, et puis je crois que ça m'a fait du bien ce matin de voir une espèce de bromance virile un peu pété, avec une histoire d'amour au milieu, t'es l'histoire passion, tu vois, t'es, ça m'a un peu marqué, ouais. Tu vois, t'es genre le ressenti de la fougue débile, de la passion subite, animale, de la période lune de miel. Ouais non, effectivement, ouais, lyrique, c'est le mot que j'avais pas mis dessus, mais que Marvin a mis dessus, qui est très très bien. Donc ouais non, ça mérite pas la shitlist, pas du tout.
Puis il y a quand même, juste avant de terminer, il y a ce truc de Michael Mann avec les BO, quoi. On en parlait un peu.
Ah oui,
ce qui est incroyable, c'est que sa manière d'envisager la bande originale, Michael Mann, c'est vraiment pas cinématographique du tout. C'est-à-dire, je mets la musique que j'aime. Tout simplement. Je mets ma playlist, en fait. Mais non,
marche.
Mais vraiment. C'est-à-dire
ça marche. Ça marche parce que ça encapsule un temps, en fait. Ça encapsule
et c'est
chose.
Vrai qu'en plus, alors oui, pour le coup, c'est ce qui fait de son cinéma un truc qui est tout le temps hyper ancré dans vraiment dans une période tu vois, de quelques
j'ai pas
années.
Souvenir,
voire
tu vois, j'ai pas souvenir de Hit, par exemple, qui a ça, tu vois, par exemple.
Hit faisait pas ça, mais par contre, Ali fait ça, tu vois.
Ouais,
Ali fait ça à fond. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, on dirait un clip et tout, mais en même temps, je veux dire, le cinéma de Mann, ça ressemble souvent à un clip géant, tu vois. Et on disait déjà de ça de Miami Vice à l'époque, je veux dire, le fait justement d'aller chercher, d'avoir ce rythme-là, et pour le coup, la série avait un montage hyper abrupt et il y avait tout le temps des morceaux de l'époque et tout. Donc il y avait ce côté clipesque déjà à l'époque, puisque c'était le cop show de la génération MTV.
Pour la série, on parle souvent de cette scène de In the Air Tonight, où c'est une scène en fait qui est assez importante dans la série, parce que c'est une scène qui ressort souvent en fait dans l'exemple.
Bien sûr.
Où on suit en fait Croquette et merde, putain.
Et Tubbs.
Avec In the Air Tonight, en fait, ils sont tous les deux stoïques. et ils vont droit en fait à se foutre sur la gueule avec un gang en fait, et c'est Phil Collins. Et là en fait ils reprennent le même truc, ils reprennent la même.
Ça marche. C'est marrant dit comme ça, mais dans la série tous les passages musicaux sont incroyables. La manière dont c'est utilisé déjà, c'était vraiment fou quoi. Et puis c'est vraiment encore une fois un truc qui imprime l'époque. Bien, ce n'est pas influencé par l'époque, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser à ces films ou ces shows qui sont des espèces de clips de 40 minutes, mais ça, encore une fois, c'est l'empreinte Miami Vice, la manière d'utiliser la musique de cette manière-là en continu dans des épisodes de série, ça vient littéralement de là, quoi. Moi, mon seul regret dans le film, c'est que Croquette ne soit pas comme dans la série, c'est-à-dire qu'il ne vive pas sur son hors-bord avec un crocodile. Qui s'appelle Elvis. Un crocodile s'appelle Elvis.
Putain.
Et un alligator, pardon. Pas un alligator.
Un alligator.
Et voilà, je suis juste un peu déçu, mais c'est tout. Non. Sinon, à part ça.
Peut-être dans les scènes coupées.
Ça va. Mais je ne le mets évidemment pas dans la shitlist. Il n'y a pas
de. Non, mais après, c'est vrai que le reproche qu'on pourrait faire, par exemple, de Michael Mann, comme quoi c'est filmé comme de la pub ou des clips, après, c'est comme ça, c'est sa carrière, en fait, parce qu'il a commencé avec Alan Parker, Ridley Scott et Adrian Lyne. Hein. Il était à Londres depuis à ce moment-là.
Il le fait très souvent, tu vois. Ali aussi, il a vraiment la même dynamique, quoi. Ali, il a aussi ce truc-là de à la fois documentaire, surréaliste, quoi. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Quoi.
Oui, c'est ça, ouais.
Ali, c'est ça, quoi. Il y a des séquences musicales qui peuvent parfois être épuisantes et interminables, mais ça fait partie de sa marque de fabrique, quoi. Pour le coup, il fait vraiment ça, et moi, je trouve qu'il le fait très bien. Hein. Et il le fait super bien dans Miami Vice avec sa playlist, quoi. Et avec la reprise de In The Air Tonight pendant le générique, d'ailleurs.
Qui est justement dans la scène où ils vont dans le trailer park pour foutre la branlée
ouais, c'est ça.
À une bande de nazis, enfin de néo-nazis, quoi. Grand plaisir, donc. Miami Vice ne sera pas dans la shitlist, effectivement, parce que quand même, c'est quand même bien mieux que cette merde de Dune. Merci Marvin, merci Karim et merci
à vous.
Au chat de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire quelque chose que vous ne faites pas souvent. Soutenir le podcast sur Patreon, bien entendu.
Et bien sûr.
Avec différents forfaits. Le forfait 3€ pour avoir l'épisode en avance, le forfait 5€ pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs. On a sorti un épisode exclusif il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Like a Dragon Infinite Wealth, voilà, pour les gamers. Et le forfait à 10€, Hall of Fame. Alors vous avez tous les bonus plus des stickers, voilà. N'hésitez pas à donner. Et puis un remerciement éternel. Le remerciement éternel, Seb Natch, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Grave Keeper, vous êtes géniaux, ne changez rien, vous êtes incroyables.
Remerciement éternel tant que vous payez. Non, remets les choses à leur place.
C'était marqué dans les petites lignes. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour encore un lundi, on enregistrera encore lundi, mais je ne sais plus quel film on a encore choisi.
Bah quand même.
Mais le planning.
La maison, la route.
Ah putain, merde. Oui.
Mais oui.
Ah oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on va avoir les Oscars, là, bientôt.
Et oui.
Et on a décidé de vous parler du pire Oscar, enfin, après Shakespeare in Love, mais...
Ah bon, y a pas un autre film avant, non. La maison, la route. Traduit littéralement, Luc.
C'est House, attends.
Roadhouse, bordel.
Mais oui.
Ah, mais merde, c'est... Ah, mais je crois... Ah.
Ça a sauté un épisode, là.
Ah. C'est pas encore Green Book.
Après,
Green Book, c'est dans 2 semaines.
Non, Green Book, ça sera pareil. Vous le savez.
Donc, lundi... Attendez, lundi... Alors, lundi, techniquement, on enregistre sur Roadhouse, l'original. Oui. Et normalement, si tout va bien, j'espère... Parce que ça, quand j'annonce, des fois, ça arrive pas. Nous avons Stéphane Boulet avec nous, le chauve.
Nous avons Stéphane Boulet. Excusez-nous, on l'a vu physiquement il y a 3 jours, il nous a redit, je serai là. Donc, pas de problème.
Écoutez, j'espère qu'il sera là. En tout cas, il m'a confirmé, effectivement, parce que normalement, ça devait être un mardi, mais exceptionnellement, on a dû décaler un lundi, on a fait une Marvinade.
Il a dit oui.
Donc, la semaine prochaine, Roadhouse, donc, Maison Roule, c'est ça, tu me disais?
Mais non, la maison, la route.
Il était juste. Hein.
Ok. Donc, écoutez, moi je l'ai pas encore vu, donc je vais apprécier l'expérience, je pense.
Oui, voilà, je pense.
On va dire. Voilà. Écoutez, retrouvez-nous la semaine prochaine. Donc lundi prochain pour Roadhouse. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify. Et on se dit. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'écouter le début de la fin également.
Grave.
Texan de City, incroyable. Allez, salut à tous, ciao.
Ciao, bisous.